Le cercle rouge de Edgar Wallace. Chapitre 25. Le locataire de la maison du quai. Monsieur Brabazon mangeait lentement un morceau de pain et de fromage au fond du triste grenier de la maison du quai. Il portait encore le smoking qu'il revêtait le soir où il avait manqué d'être arrêté. Mais l'habit de bonne coupe était maintenant tout taché. Sa chemise blanche était devenue grise, son faux col avait disparu, et son aspect lamentable n'était pas amélioré par une barbe de 15 jours qui le vieillissait de 10 ans. Ayant achevé son maigre repas, il ouvrit la lucarne et jeta les miettes au dehors. Puis, soulevant la trappe, il descendit à l'arrière-cuisine de la maison. Il n'avait ni linge ni savon, mais il essaya de s'en passer et s'essuya le visage avec l'un des 2 mouchoirs de poche qu'il avait sur lui au moment de sa fuite. En fait, à part un léger par-dessus et un chapeau, il n'avait apporté dans sa retraite forcée que les habits qu'il avait sur le dos. Les provisions qu'un inconnu lui avait apportées un soir étaient maintenant presque épuisées, et il se sentait à bout de résistance nerveuse. Une 10aine de jours dans la solitude d'un grenier, l'appréhension constante d'une visite, la certitude d'une condamnation en cas de surprise, avait suffi à abattre le courage d'un homme. Il s'était dissimulé derrière la porte d'une mansarde située immédiatement au-dessous du grenier lors de la visite de Yel. Et le souvenir du danger couru en cette circonstance le hantait sans cesse. Il s'installa le plus confortablement possible pour la nuit dans un vieux fauteuil qu'il avait découvert au rez-de-chaussée. L'inconnu qui lui avait donné l'éveil 1 heure avant l'arrivée de la police à son domicile et qui lui avait déjà apporté des provisions ne tarderait sans doute pas à revenir. Brabazon y songeait justement lorsqu'il entendit une clé glisser dans la serrure de la porte d'entrée. Il se leva et, à pas feutrés, regagna l'échelle du grenier. Il soulevait la trappe lorsqu'il entendit une voix dire « Redescendez !» Il obéit. Il était habitué à l'obscurité et se dirigea vers le couloir encore plus sombre que le reste de la maison et où il avait eu sa précédente entrevue avec son étrange visiteur. « Restez où vous êtes !» lui dit la voix au moment où il arrivait au premier étage. « Je vous apporte des provisions et des vêtements. Vous trouverez dans ce paquet tout ce qu'il vous faut. Vous vous raserez et vous ferez un peu plus présentable. » « Après cela, que dois-je faire ?» demanda Brabazon. « Je vous ai retenu une cabine sur le steamer qui part après-demain des quais Victoria pour la Nouvelle-Zélande. Vous trouverez également votre billet et votre passeport dans le paquet. Maintenant, écoutez. Vous ferez tomber votre moustache et vous vous raserez aussi les sourcils. C'est ce qu'il y a de plus remarquable dans votre physionomie. » Brabazon se dit que l'inconnu devait l'avoir vu auparavant. Et, portant la main à ses sourcils, il reconnut que son mystérieux visiteur avait raison. « Je ne vous ai pas apporté d'argent, » continua l'étrange personnage. « Vous avez les 60 000 livres que vous avez volées à Marle lors de la clôture de son compte, en ne lui remettant que de faux billets. Car vous saviez que j'allais supprimer cet individu. Ce que j'ai fait. « Qui êtes-vous donc ?» bégaya Brabazon. « Je suis le Cercle Rouge. Ne m'en demandez pas davantage. Nous nous sommes déjà rencontrés. Oui, oui, balbutia encore le banquier éperdu. Je crois que je deviens fou ici. Quand dois-je quitter la maison? Vous pourrez sortir demain. Attendez la tombée de la nuit. Votre bateau ne part que le lendemain matin, mais vous pourrez vous rendre à bord dès demain soir. Mais ne va-t-on pas m'interroger longuement lorsque je monterai à bord? N'est-ce pas trop dangereux? Vous ne courez absolument aucun risque, repartit la voix. Maintenant, donnez-moi votre argent.
Mon argent?
Oui, tout. Il y avait une telle autorité et de telles menaces dans cette voix que Brabazon obéit. Deux grosses liasses de billets passèrent entre les mains gantées du visiteur, qui, en échange, lui tendit une autre liasse. Au toucher, les doigts experts du banquier lui révélèrent que c'était des billets de banque neufs. Vous changerez cela à l'étranger, dit l'homme.
Ne pourrais-je sortir dès ce soir? Plaida Brabazon. Cette maison me soulève le cœur.
Le cercle rouge dut réfléchir un moment, car il ne répondit pas tout de suite.
Eh bien, si vous voulez, dit-il enfin. Mais rappelez-vous que c'est un peu risqué.
Maintenant, remontez.
L'ordre était si péremptoire que Brabazon ne songea pas à le discuter. Il entendit la porte se refermer, et de derrière sa lucarne, il vit une ombre se glisser dans le jardin, puis dans la rue.
Il redescendit aussitôt, et à tâtons chercha le paquet que son visiteur lui avait apporté. Il le trouva et l'apporta à l'arrière-cuisine, où il pouvait allumer, sans trop d'appréhension, une bougie dénichée dans un recoin de la vieille maison. D'abord, il compta l'argent reçu en échange du sien. C'était des billets neufs, mais de toute série et sans suite de numéro, tandis que les siens se suivaient. Il était fort correct lorsqu'il sortit avec précaution de son refuge. Sans moustache ni sourcils, il eût pu passer sans encombre devant plusieurs agents qui avaient son signalement dans leur poche. Il prit une chambre dans un petit hôtel voisin de la gare d'Euston et se coucha immédiatement. C'était sa première nuit calme depuis sa fuite. Il passa la journée entière du lendemain dans sa chambre. Mais à la nuit, il se risqua au dehors, après un petit dîner solitaire. Il reprit confiance en voyant qu'il passait vraiment inaperçu et commença à espérer qu'il affronterait victorieusement l'interrogatoire de la police maritime. Il choisit cependant les rues les moins fréquentées et, se trouvant aux abords du muséum, il aperçut une affiche tout imprimé en rouge, qu'il eut la curiosité de lire. Ce faisant, il lui vint une idée. 10 000 livres et l'amnistie complète. D'autre part, aucune certitude de pouvoir fuir en sécurité sur ce bateau. Et même alors, que deviendrait-il en Nouvelle-Zélande? Il y mènerait à coup sûr une vie de chien, surtout lorsqu'il n'aurait plus d'argent. 10 000 livres et la liberté. Personne ne saurait jamais ce qui était advenu du dépôt de Marle. Il pourrait le déposer dès le lendemain dans le coffre d'une banque. Puis il irait droit à la préfecture de police, où il apporterait sans doute assez d'informations pour permettre la capture du cercle rouge.
« Je ferai cela !»
dit-il à haute voix.
« Et vous aurez bien raison !»
dit quelqu'un à ses côtés. Il leva les yeux. Un gros homme d'aspect débonnaire s'était approché de lui sans bruit. Il le reconnut aussitôt.
« Monsieur Parr ? »
s'écria-t-il.
« Lui-même !»
répondit le chef de la sûreté.
« Maintenant, monsieur Brabazon, voulez-vous faire gentiment quelques pas avec moi ? Je vous avertis d'ailleurs qu'il serait inutile de faire de la résistance. »
Lorsqu'ils arrivèrent au commissariat, ils virent sortir une femme, en qui le pauvre Brabazon, tremblant, ne reconnut pas l'une de ses anciennes employées.
Vous pouvez vous épargner beaucoup d'ennuis, lui expliqua Parr, en me disant tout ce que vous savez. Quant à moi, je puis vous rappeler, au cas où vous l'auriez déjà oublié, que vous avez passé la nuit et la journée à l'hôtel Bright, route de Stone, que votre cabine est retenue au nom de Thompson, sur Litinga, qui part demain pour la Nouvelle-Zélande.
Ciel ! S'écria M. Brabazon. Comment avez-vous appris tout cela ?
L'inspecteur Parr ne le renseigna point.
D'ailleurs, le banquier n'avait pas l'intention de tromper la police.
Il dit tout ce qu'il savait, particulièrement tout ce qui s'était passé entre le moment où un mystérieux coup de téléphone lui avait appris l'imminence de son arrestation jusqu'au moment où le policier lui avait mis la main sur l'épaule.
Vous êtes donc resté dans cette vieille maison tout le temps ?
Dit Parr d'un air songeur.
Mais comment avez-vous fait pour ne pas être vu de M. Yale lorsque nous avons fait notre perquisition ?
Ah, c'était Yale, fit Brabazon. Je croyais que c'était vous qui étiez monté au grenier. Eh bien, au fond du corridor, il y a une sorte de réduit. J'étais là, et je me suis borné à me mettre derrière la porte qui s'ouvrait à l'intérieur. Il n'a fait qu'ouvrir et jeter un coup d'œil.
Ainsi, Yale avait raison. Vous étiez dans cette maison. Maintenant, Brabazon, qu'avez-vous à déclarer d'autre ?
Je veux dire tout ce que je sais sur le cercle rouge. Et je crois que cela permettra de l'arrêter, mais il y faudra du doigté.
Le banquier reprenait un peu de son ancien aplomb à ce qu'observa Parr. Il poursuivit ainsi.
Je vous ai dit qu'il avait pris mes billets de banque et m'en avait donné d'autres en échange. Or, ces derniers ne se suivent nullement, tandis que les miens étaient tous de série E19, et je pourrais en indiquer tous les numéros.
Ce devait être l'argent de Froyant, dit Parr.
Continuez. Il n'osait pas changer des billets qu'on avait dû frapper d'opposition. Mais les miens, il les changera. Et comme je vous en donne les numéros, vous voyez quel atout cela vous apporte.
L'inspecteur demeurait un peu sceptique à ce sujet. Néanmoins, il téléphona à M. Froyant ce qu'il venait d'apprendre.
Vous avez retrouvé l'argent ?
S'écria M. Froyant.
« Apportez-le-moi le plus tôt possible !»«
Je le ferai avec le plus grand plaisir, » répondit Parr. « Mais je dois vous informer que si j'ai retrouvé une somme d'argent égale à celle qui vous a été volée, ce n'est pas votre argent, ce ne sont pas vos billets. »
Quelques heures après, en la présence de M. Froyant, les billets de banque de Brabazon furent examinés. Le millionnaire ne cacha pas son désappointement.
Il avait cru rentrer en possession immédiate de son argent et il lui fallait déchanter. Il en prit enfin son parti. Mais, sur le point de quitter l'inspecteur, il lui demanda tout à coup « Avez-vous les numéros des billets que Brabazon a donnés à son mystérieux visiteur ?»«
Les voici, » répondit Parr.
Et M. Froyant les nota soigneusement.